Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Donc, j'aimerais vous remercier, enfin le GBU, de m'avoir invité pour traiter ce thème. J'aimerais vous dire d'emblée que j'ai beaucoup appris et je vous remercie vraiment d'avoir posé cette question. Donc, moi, je suis ravi de ce que j'ai appris en travaillant ce sujet. Alors, par rapport aux attentes, donc, je vais vous donner les étiologies, les raisons, et puis comment accompagner, et puis comment s'en sortir. Là, je crains que vous allez être beaucoup plus stressé que déstressé. Donc, en effet, je m'attaque surtout à la physiopathologie. Donc, j'essaye de tout démonter. Alors, j'espère que ceux qui vont me suivre cet après-midi, ils vont essayer de reconstruire. Donc de mettre les choses ensemble, sinon vous allez, je pense, être vraiment déçus. Donc le burn-out, du stress, oui, il y a quelques modifications dans les images, je ne sais pas pourquoi, donc là je dois appuyer ici. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est mon plan. Première partie, donc elle est physiopathologique. Du flash de l'adrénaline au crash du cortisol. Donc, la deuxième partie, c'est du sur au désinvestissement. Donc, il a parlé, là déjà, il a abordé, ben, ce sont que les gens qui sont vraiment impliqués fortement qui vont avoir ce risque. Une pathologie, est-ce que c'est une pathologie des conditions de travail et ou alors c'est une adaptation, d'un trouble de l'adaptation, on n'arrive pas à s'adapter aux conditions de travail. Donc c'est ce que vous pouvez lire en général dans les livres. Je suis allé un petit peu plus loin, et puis j'ai mis une touche spirituelle, et un petit peu provocant. Est-ce que, oui, mais là il y a une partie qui manque, c'est dommage, parce que c'est... Ouais. C'est l'aboutissement d'une faillite spirituelle collective, c'est pas du tout individuel. Et je ne voudrais absolument pas stigmatiser qui que ce soit. Donc, c'est plus une faillite. Alors, je ne sais pas comment on peut corriger la diapo, si ça... Bon, on va voir si ça se répète sur les prochaines. Donc, du flash de l'adrénaline. L'adrénaline, ça nous donne des ailes. Ça nous élève. On s'envole. On est vraiment, on est bien. On est en pleine forme. On ose des choses. Et puis, quand cette adrénaline, elle se déverse, et puis surtout avec le cortisol, et que ça dure et que ça dure, ben, on se retrouve par terre. On a besoin d'être ramassé. On a vraiment l'impression d'être bon pour la casse. Et alors, il faut partir naturellement du stress. Le stress est une réaction non spécifique, donc qui procure de l'énergie pour faire face à une demande inhabituelle. Oui, ça reste toujours le problème des diapos du bas. Je ne sais pas comment on peut... Pardon ? Non, 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 c'est par rapport à l'ordinateur.
C'est l'adaptation de...
Oui, oui. Alors, on le laisse... Non, c'est pareil. Comme j'ai bien rempli mes diapos, il y a toujours des choses en bas. Quand vous avez une action que vous savez faire tout à fait naturellement, il n'y a aucun risque de stress. Donc si vous faites les choses automatiquement, il n'y a aucune implication, vous n'allez pas stresser. Ce n'est que dans les demandes inhabituelles que le stress va être présent. Et donc c'est très important, donc, puisque ce stress nous permet d'avoir une énergie en plus. Et c'est surtout une énergie physique. D'ailleurs, quand on... C'est une question de survie. C'est ce qu'on va voir sur le. Initialement, le stress, il est uniquement là pour en vue d'une question de survie, aussi d'adaptation, mais surtout de survie. Et donc, ça nous donne de l'énergie physique. Et donc, le problème, si on peut courir alors qu'on est stressé, si on peut faire quelque chose en même temps qu'on est stressé, c'est beaucoup mieux supporté que si vous êtes immobile, que vous êtes bloqué dans une pièce et que vous ne pouvez absolument rien faire. Donc, c'est surtout une libération d'énergie physique.
J'essaie
de tout remonter. Ok. Donc, ça, c'est un facteur de stress. Les retards de la SNCF, les aléas de... Donc, tout ceci est... fait partie des stresseurs dont on va parler.
Alors, le problème, c'est qu'il faut le faire sur toutes les diapos. Sur le...
Donc, ça promet.
Et si on laisse,
bon, on peut... Ouais, tant pis, on laisse comme ça. Ok. Ok, donc la réaction donc, non spécifique procurant une énergie accrue. En effet, cette antilope donc, face au lion, elle a besoin d'énergie pour pouvoir fuir, pour échapper. C'est aussi donc une réaction d'adaptation. Ah, ouais, il faut tout de même mettre sur... Où est-ce qu'il est celui-là? Décidément. Je vous laisse...
Ouais.
Ah. Ça aussi, le monde de l'informatique est une est un monde.
Comme ça, ils manqueront le bas à chaque fois.
Pardon ?
Ils manqueront le bas à chaque fois.
Ouais, bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On s'adaptera, on fera avec. Hein. Ça, c'est encore mieux, ça. Ça, c'est interdit, carrément. Donc, décidément, je suis censuré. Donc, il y a trois notions dans le terme de stress. Il y a les stresseurs, donc c'est l'origine, c'est l'événement qui entraîne le stress. Il y a le stress en tant que réaction biologique, et puis il y a les conséquences du stress. Hein. Donc c'était ces trois éléments qui étaient sur cette diapositive. Alors on appelle stresseur tout ce qui provoque une libération d'hormones de stress, c'est par définition un stresseur. Donc naturellement, ce stress, il dépend des conditions extérieures, et puis on dit toujours, c'est tu me stresses, tu m'embêtes. Mais il n'y a pas que les conditions extérieures, il y a aussi des stresseurs internes. On a d'ailleurs, tout ce qui est à l'intérieur de nous, on l'a incorporé un jour, on l'a intériorisé, et donc on peut très bien avoir ce stresseur externe d'antan à l'intérieur de nous-mêmes. Et aussi, donc, quand il y a des difficultés d'adaptation à ces événements. Alors, il y a des stresseurs physiques qui causent donc une contrainte sur le corps, donc la fièvre, la fatigue, la soif, etc. Mais il y a aussi des stresseurs psychologiques, donc quand on n'est pas en accord avec quelqu'un d'autre et qu'on se sent en danger par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a des stresseurs universels, ça veut dire que tout le monde va être stressé en cas de tremblement de terre, en cas de tsunami, donc il n'y a pas une personne qui peut dire oh, « ok, ça passera ». Donc, mais il y a aussi des stresseurs donc, qui sont relatifs, et ça vous connaissez tous quand vous avez fait les examens. Il y en a qui passent les examens de manière beaucoup plus cool que d'autres, ou qui travaillent, qui supportent beaucoup mieux la pression au travail que d'autres. Alors, les ingrédients pour faire un bon stresseur, ben, il faut un événement imprévisible. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de possibilité de... Comme les diapositives, là, c'est ça. On n'est pas sûr ce qu'il va y avoir sur la prochaine, si elle va passer ou non, si elle va être censurée ou non. Donc, les événements imprévisibles et cette absence de contrôle. On se sent impuissant. Donc, on est menacé. Bon, s'il arrive quelque chose, donc en ville, je ne me sens pas forcément menacé, ce n'est pas forcément ma faute. Mais là, j'aurais dû faire quelque chose de différent, j'aurais peut-être dû apporter mon ordinateur, j'aurais peut-être dû... Donc, l'ego peut être menacé, c'est ça qui fait que qu'on stresse beaucoup plus. Donc, défi avec absence de contrôle, le danger est perçu comme pouvant être plus grand que les ressources qu'on a. Ça, c'est très important. Il y a le risque, il y a la demande, et de l'autre côté, il y a les ressources. Il y a toujours ce décalage entre la demande, ou ce que j'attends, les attentes, et les ressources que j'ai. Donc, c'est imprévisible, irrationnel, donc ça peut même être incompréhensible, je ne comprends pas, mais ça me dépasse, enfin, je n'ai jamais vécu cette situation, donc c'est quelque chose qui survient alors que je ne peux absolument pas m'y attendre et je suis pris au dépourvu et ceci entraîne mon ego est menacé. Je devrais, ou j'ai l'impression que je devrais faire face, pouvoir faire face, et je ne le peux pas. Alors, est-ce que le stress peut être utile? Oui, quand l'énergie utilisée, donc quand l'énergie libérée, et surtout utilisée, donc qu'elle est efficace et non pas simplement en émotion, simplement en colère ou en peur. Donc si l'émotion peut être utilisée correctement, donc par exemple vous avez peur de louper votre train et puis donc vous stressez, vous courez et puis vous arrivez donc à rattraper le train. Donc, votre énergie, votre stress, l'énergie libérée, donc, a été utilisée à bon escient. Donc là, effectivement, et les performances sont meilleures, parce que si vous n'étiez pas stressé, vous l'auriez loupé. Donc, le fait d'avoir été stressé par le manque de temps vous libère de l'énergie, vous l'utilisez à bon escient, et donc, vos performances sont plus importantes. Il y a besoin d'une certaine énergie de base pour pouvoir nous faire fonctionner de manière optimale. Si nous sommes endormis, donc bon, on peut réfléchir effectivement, mais et puis sans plus. Par contre, si on est réveillé et puis si on trouve que il faut tout de même mettre un petit peu de soi-même, qu'on est un petit peu défié, donc ça nous donne plus d'adrénaline et ça nous donne aussi plus d'éveil, plus de connexion au niveau des neurones, et ça nous permet d'être plus efficace. Donc vous avez cette courbe en cloche, donc il faut un certain degré de stress pour être performant, mais trop de stress, donc nuit. Et donc et vous connaissez tous ces moments où vous êtes tellement stressé, vous ne vous souvenez plus de rien du tout. Donc c'est le blanc. Donc ça c'est trop de stress, parce que là l'adrénaline... Et vous brouille tellement peut-être même plus le cortisol vous brouille tellement le cerveau que les connexions ne sont plus correctes. Alors stress inadapté en cas de réaction trop intense ou durable, ça c'est important. Donc on a des limites. Toute réaction trop importante, trop intense, elle n'est pas bonne, donc on ne va pas pouvoir la gérer, et dans le temps aussi. Donc effectivement, il y a plein de boulot à l'hôpital, et puis etc., on en met encore, et puis... Donc là, c'est sûr que quoi qu'on fasse, on ne peut pas répondre à tout. Alors, il y a un stress inadapté en cas de déséquilibre entre la perception des exigences externes ou internes. Donc c'est vous qui pouvez vous mettre la pression aussi. Et vous percevez que les exigences sont tellement élevées et puis vos ressources sont tellement basses ou votre capacité de gestion est tellement faible que vous n'y arriverez pas. Là, il y a un stress inadapté et puis ce sera plus du stress positif, mais ce sera du stress négatif et c'est là que tout va s'emballer. Naturellement, nous ne sommes pas tous égaux par rapport à la vulnérabilité aux stresseurs. Il y a certains qui sont beaucoup plus cool, qui arrivent à encaisser beaucoup plus facilement que d'autres. Et donc, la limite, elle est variable et les réactions sont différentes d'une personne à une autre. Le stress donc évolue en trois phases. La première phase, c'est la phase d'alarme. Ça marche pas non plus celui-là. Décidément. Ah, non, je l'ai dans l'autre sens. J'ai failli. Non, c'est pas un ophtalmo. Mais ça fait rien. J'ai failli aveugler un ophtalmo là, avec le laser. Donc, la première phase, c'est la phase d'alarme. Ça, c'est la phase de l'adrénaline. Après, si le stress dure, on parle d'une phase de résistance. Et puis, on arrive vers l'épuisement. L'alarme, donc, c'est l'adrénaline. L'adrénaline est sécrétée par le système nerveux sympathique. Donc, il y a d'une part des nerfs. Il y a le système nerveux sympathique, le système autonome qui innerve le cœur, qui innerve les bronches, qui est aussi le splanchnique, donc qui innerve aussi les intestins, et qui va agir directement sur le cœur, qui va l'accélérer. Donc là, c'est un neuromédiateur. Mais en même temps, ce système splanchnique, il va aussi stimuler la médulle surrénale. Les surrénales, c'est la glande qui est au-dessus donc des reins, et va produire l'adrénaline en tant qu'hormone, donc il va circuler dans le sang et qui va aller amener cette adrénaline partout. Donc il y a une action sympathique directe sur le cœur surtout, mais aussi à travers l'adrénaline donc dans le sang qui va atteindre donc les différents organes. Alors cette adrénaline, elle prépare à la fuite ou au combat. Ça, c'est vraiment le stress, c'est une réaction ancienne, donc archaïque, de danger, soit je fuis, soit j'attaque. Donc, fuite ou combat. Alors, le problème, c'est effectivement dans le temps, enfin, où les animaux ont également ce système, on est aussi en partie animal, donc il y a parfois des dangers physiques qu'il faut absolument fuir, ou alors il faut se défendre. Mais c'est tout de même exceptionnel. Nos stress sont beaucoup moins physiques et sont surtout beaucoup plus psychologiques ou autres que physiques. Alors, il y a un certain nombre de symptômes. Il y a tout plein qui sont partis. Bon, ok, tant pis. Cette adrénaline, donc ça, vous le savez, accélère le cœur, accélère...
Ça, c'est important.
Pardon ?
Tu dis ça, c'est important.
Ouais, non mais. Oui, peut-être, ce serait peut-être pas mal, parce que. Donc. Il y a donc une vasoconstriction splanchnique, donc les vaisseaux de digestifs vont se constricter, également la peau, donc on va avoir une peau blanche, et puis les poils qui vont se hérisser. Alors pourquoi les poils se hérissent? Ça nous donne plus d'envergure, et donc ça nous permet d'impressionner. Enfin, initialement pour les animaux, mais c'est un vestige. Donc, de regarder les chats ou quand ils prennent beaucoup plus de enfin, ils augmentent leur volume pour impressionner. C'est un vestige de cette réaction de défense. Et puis, il y a beaucoup plus de sang qui va aller dans les muscles. Alors, surtout les muscles des membres inférieurs quand il s'agit de fuir. Et les muscles dans les membres supérieurs quand il s'agit de combattre. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes muscles qui vont être pris en compte. Donc, en fonction de si on veut fuir ou si on veut combattre. Et puis, il y a aussi une vasodilatation centrale. Il y a beaucoup plus de sang qui va au niveau du cerveau. On va voir les pupilles dilatées, donc pour mieux voir, pour être plus attentif. Et puis aussi notre attention qui est stimulée. Donc ça, c'est l'effet de l'adrénaline. Ça va venir, oui. On va essayer de ne pas trop en décharger. Vous avez une question jusqu'à présent? On va profiter de... Le système? Oui, c'est les vaisseaux qui vont aux intestins, dans le tube digestif. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique un petit peu que vous pouvez très bien, si vous êtes stressé, vous avez des troubles digestifs souvent, des perturbations digestives. Donc on va retrouver plein de symptômes qui sont liés justement à cette répartition de la circulation et puis de la stimulation de certaines parties au détriment d'autres. Et surtout au niveau du... Ah, là c'est mieux, je pense. Parler. Pardon. Super, merci beaucoup. Ah, donc ça me rassure, sauf que je trouve plus le suivant, ça doit être ça, c'est bon, ok. Donc les performances sont meilleures, ouais, ça on l'avait vu. Donc accélération du rythme cardiaque et respiratoire, vasoconstriction donc au niveau digestif et puis au niveau de la peau, mais surtout vasodilatation musculaire et dilatation des pupilles, augmentation aussi de la température corporelle et puis une tendance à transpirer. Là c'est simplement pour vous montrer que la médulle surrénale fabrique et excrète donc l'adrénaline, ça c'est, mais elle sécrète aussi en périphérie les glucocorticoïdes. Donc la médulle surrénale, elle a deux, enfin la surrénale plutôt, elle a deux fonctions, même plus, mais surtout ce qui nous intéresse là, c'est qu'elle sécrète l'adrénaline, mais aussi le cortisol, les corticoïdes, qui vont être à l'origine du burn-out. Ça, c'est un petit schéma pour mieux comprendre. Donc, il y a un danger qui est repéré. On a l'hypothalamus qui va stimuler le système sympathique. Alors, directement, il va accélérer le cœur. Et puis, il va aussi stimuler la médulle surrénale avec libération d'adrénaline. Normalement, quand tout rentre dans l'ordre, on a très rapidement une réaction de parasympathique, donc qui va ralentir grâce à l'acétylcholine, qui va ralentir le cœur, et vous connaissez parfois ces réactions vagales, par exemple quelqu'un qui a eu une prise de sang, il a eu peur, et puis donc il y a eu une forte émotion, et puis vous avez le retour du parasympathique, le ralentissement, et le cœur se ralentit tellement qu'il peut avoir une petite perte de connaissance de quelques instants, et puis le cœur il se réaccélère. Donc ça c'est... Pour une réaction d'adrénaline, elle est compensée par une réaction parasympathique et tout doit rentrer dans l'ordre. Sinon, si le stress, si le danger perdure, ben, il va y avoir une stimulation de l'hypophyse qui va stimuler la corticosurrénale et il va y avoir libération de cortisol, de corticoïdes. Et ce cortisone donc va permettre d'avoir plus d'énergie parce que comme la demande se prolonge, ben il faut avoir de l'énergie et il va y avoir donc transformation des lipides. Enfin, on va avoir du sucre mis à la disposition par ces corticoïdes. Ces corticoïdes, ils vont aller partout. Ils vont aussi aller au niveau de la tête, donc au niveau de l'hippocampe, qui est une petite partie qui va contrôler. Et qui va entraîner un feedback freinateur. Donc l'hippocampe va détecter qu'il y a beaucoup de cortisol, donc, et puis ben, il faut calmer. Et donc on a une action freinatrice sur l'hypothalamus, et puis donc la sécrétion de cortisol va diminuer. Mais si ça persiste, donc ben, il y aura toujours du cortisol, il y aura toujours de nouveau une sécrétion de corticoïdes. Et c'est cette sécrétion de corticoïdes qui perdure, donc des jours, des semaines, qui va être à l'origine des manifestations de la phase de résistance. La phase d'alarme, c'est l'adrénaline. Ok, on a réagi, et puis très souvent le parasympathique, il calme par derrière, et puis tout rentre dans l'ordre, donc il ne se passe pas grand-chose. Donc, par contre, quand ce stress il continue, quand il dure, quand il est intense, ben, il va y avoir sécrétion de corticoïdes et qui vont perdurer et il va y avoir des symptômes. Donc, on va entrer dans la phase de résistance où, où la cortisone est sécrétée jour après jour. Et on va avoir des symptômes physiques, alors surtout de douleur. Douleur, tension musculaire, donc des articulations qui font mal. On est tellement crispé, donc on est tendu et on a mal, des torticolis ou des douleurs dorsales. Donc surtout des douleurs, douleurs thoraciques aussi, douleurs au niveau des pointes, au niveau thoracique, ont des douleurs digestives. Donc tout plein de douleurs. L'essoufflement des personnes qui respirent, donc je vous avais dit, l'adrénaline accélère la fréquence respiratoire. Donc, parfois en voyant des gens rentrer, quand ils respirent comme ça, on sait qu'ils sont stressés. C'est évident. Donc, alors ils soupirent. Donc, ce sont des manifestations de stress, de sueur, de palpitations, d'insomnie. En effet, le cortisol, il empêche de dormir. On ne peut pas être aux aguets et dormir, ce n'est pas possible. Donc, et puis, ça fatigue, parce qu'à force d'être stimulé, ben on est fatigué. Et puis, ça favorise les infections. Donc, infections ORL, bronchite ou d'autres infections. Donc, ça, c'est au niveau, un stress qui dure donne des symptômes physiques, mais donne aussi des symptômes émotionnels. Et donc, qui sont l'hypersensibilité. On est facilement irritable. On n'arrive pas à encaisser le moindre parole de travers. Ça nous fait réagir. Donc, on a des appréhensions, des craintes. On n'est pas cool. On n'est pas bien. On a des troubles de l'humeur. Puis, on passe des crises de larmes au rire. Et puis, on n'est pas zen. On n'est pas cool. Ça ne se passe pas bien. On est constamment agité, irrité. Donc, anxieux, ça c'est au niveau émotionnel. Donc, ça c'est très important de pouvoir prendre en compte ces symptômes. Et puis, il se passe aussi des choses au niveau des pensées. Donc, on a du mal à se concentrer. On est pas bien, on ne retrouve pas les mots, on a un ralentissement idiatoire. Je voudrais dire quelque chose, mais je n'arrive pas à le trouver. J'ai plein de doutes. Donc, j'ai des difficultés à prendre des initiatives. Je ne suis pas moi-même. J'ai du mal à mémoriser. J'oublie plein de choses. Je fais des erreurs. Je suis préoccupé par plein de choses. Donc, on est inquiet au niveau des pensées. On ne se reconnaît pas non plus. Et puis, on n'a pas cette sérénité habituelle. Et ceci peut nous amener à des troubles du comportement également. Et où on se sent absolument plus efficace. On se sent plus utile. Bon, il y a une baisse de libido aussi. On n'a plus envie de contact. Alors certains, naturellement, le matin quand on est fatigué, ben il faut des cafés, il faut fumer, il faut se mettre sous pression. Et puis le soir, on n'arrive pas à se calmer, alors on prend des somnifères, on prend des anxiolytiques, on prend de l'alcool. Donc ça permet souvent d'oublier. Et puis il y a des risques d'accident de la route ou d'accident d'un travail. Et puis on évite donc au maximum tout ce qui peut nous stresser. Donc il y a l'évitement et puis on se replie, on a tendance à se replier sur soi. Donc quand vous avez ces symptômes peuvent durer des années. Donc c'est des mois, des années, et il y a plein de personnes qui ont ces symptômes, mais bon, on trouve ça, c'est normal, c'est la vie. Donc, mais c'est pas normal. Alors là, on arrive aux stresseurs aigus, stresseurs chroniques. Donc les stresseurs aigus, un événement aigu incontrôlable, un accident, une agression, une critique peut-être même parfois, ça peut susciter une réaction d'alarme importante. Et puis même, il peut y avoir parfois un syndrome post-traumatique dans l'immédiat. On peut avoir des réactions très très fortes. Bon, mais on ne va pas parler des syndromes post-traumatiques ou voire chroniques. Mais ce sont surtout les stresseurs chroniques. C'est là que ça répond à ta question. Donc, les stresseurs chroniques qui suscitent la phase de résistance. Ce n'est pas un épisode aigu, mais ce sont la répétition, c'est on n'arrive pas à s'en sortir d'une situation, c'est ça qui provoque. Alors si vous êtes dans cette situation, si vous avez un stress post-traumatique par exemple, si de surcroît vous avez des stresseurs chroniques en plus, ben ça peut que aggraver la situation, c'est sûr, mais c'est pas la même chose. Et puis, à long terme, le stress altère l'homéostasie physiologique et l'intégrité tissulaire. Donc, le bon fonctionnement de l'organisme est déréglé. Donc, c'est d'abord fonctionnel. Ça peut entraîner des lésions physiques, enfin des lésions des organes, donc des lésions tissulaires. Et puis, ça peut même donner des tumeurs. Donc, de la pathologie fonctionnelle à la pathologie organique, voire tumorale. Donc, il y a certainement pas mal de cancers qui sont liés à un stress chronique. Alors, ce cancer ne survient pas chez tout le monde. Naturellement, il faut un terrain génétique particulier, une fragilité génétique particulière. Mais sur ce terrain, le stress en continu peut favoriser donc non seulement un dysfonctionnement de l'organe, mais également donc des maladies, voire des tumeurs. Et naturellement, le premier, c'est le syndrome métabolique. Donc, il comporte de l'hypertension artérielle, l'obésité abdominale, la résistance donc à l'insuline, la dyslipidémie, l'augmentation du cholestérol par exemple. On traite plein de gens par des statines donc pour diminuer leur cholestérol, mais on les interroge pas forcément sur leur stress et on n'essaye pas forcément de modifier leur état de stress. Les maladies cardiovasculaires, donc l'angine de poitrine, l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral, les troubles musculosquelettiques, donc les douleurs articulaires, les arthrites, enfin vous pouvez tout mettre dans le... Et je pense on n'y pense pas suffisamment, donc de questionner si les gens sont pas dans un état de stress chronique. Les infections à répétition, les rhinites, l'asthme, l'eczéma, psoriasis, gastrite, mais bon, vous pouvez tout mettre pratiquement. Les ulcères... Donc, puis les tumeurs. La santé mentale également, des tendances dépressives, parce qu'à force de faire face et de ne pas pouvoir arriver à gérer le problème, ben, on finit par déprimer. Troubles anxieux, donc attaques de panique, et puis anxiété généralisée. Suicide, et puis en dernier, naturellement, le burn-out, donc... À l'épuisement. J'aime bien cette image. Bon, à gauche, l'allumette, elle est tout à fait intacte. Ça, je pense qu'il n'y a personne qui est dans cette situation. Mais la phase de résistance, donc, c'est tous ces états. C'est vraiment un continuum entre un stress, bon, qui est un tout petit peu exagéré de temps à autre, qu'on a tous. Ça, c'est normal. Il faut vivre. Et puis, mais jusqu'à l'extrémité. Donc, et vous verrez que le burn-out, ben c'est tout ça. C'est tout un cheminement, et puis on arrive à un stade d'épuisement total. Mais il ne faut pas attendre le stade d'épuisement total pour en faire le diagnostic. Donc, il faut détecter tous les symptômes pendant toute cette période donc antérieure. Alors, qu'est-ce qui se passe donc au bout d'un certain temps où l'organisme est inondé de cortisone? L'hippocampe ne va plus répondre. L'hippocampe ne va plus va plus détecter le cortisol ou très mal, et donc il va plus y avoir de freinage. Et de ce fait, le cortisol se déverse. Et c'est grave parce qu'il y a une diminution de la taille de l'hippocampe et de certaines structures du cerveau qui diminuent, qui s'atrophient. Donc il y a des morts de cellulaires, et ce n'est pas toujours évident de récupérer, de tout récupérer après un épuisement. Donc parce que, justement, il y a des morts cellulaires. Donc ça, c'est très important, cet hippocampe, à partir d'un certain moment, donc ne peut plus faire son boulot de régulateur, et donc on est vraiment entièrement exposé au cortisol. Alors, l'épuisement physique et mental, donc, il y a trois phases. Il y a un épuisement, il y a un épuisement physique, ça c'est très important, émotionnel aussi, et puis mental. Donc une fatigue majeure. On a du mal à dormir parce que le cortisol, ça nous garde réveillés. On a l'impression de ne plus du tout avoir d'énergie. On n'arrive plus à se lever, on n'arrive plus à faire quoi que ce soit. On transpire constamment, on n'est pas bien, on est irritable, on se sent vraiment mal. Donc cela, il y a une part physique. Et puis naturellement, par rapport, si je ne peux plus rien faire, ben, je me mets en retrait. J'essaye de m'isoler. Donc je me désintéresse, je me détache des autres, je dis non à tout. Donc, et je déshumanise même les relations. Enfin, je me mets vraiment de côté. Mais le problème, si je me mets de côté, je n'ai plus aucun impact positif des autres. Donc je me retrouve dans une phase d'apathie et de désespoir. Je n'ai plus du tout de retour. Je suis complètement isolé. Et puis, bon, je perds la mémoire aussi du fait du cortisone. Je perds l'estime de moi-même. Donc, et j'ai l'impression que je suis au bout du rouleau. Je suis plus bon à quoi que ce soit. Donc, vous avez cette évolution. Donc, on est épuisé physiquement, émotionnellement, mentalement. On se retire. Et puis, c'est normal qu'on se retire, c'est sûr. Mais en se retirant, ben, il n'y a plus aucun impact positif et on désespère de soi-même. Alors qu'initialement, c'est lié à l'extérieur, ou soi-disant à l'extérieur, on se retrouve à se dénigrer et à s'auto-condamner. Ok, deuxième partie, du sur au désinvestissement. Une pathologie, est-ce que c'est une pathologie des conditions du travail? Et donc, si on changeait les conditions de travail, tout rentrer dans l'ordre, ou alors c'est une pathologie de l'adaptation au travail. Donc, alors je vous parle un petit peu des stresseurs modernes, des conditions de travail, des susceptibilités aussi individuelles au stress et de l'adaptation au travail. Les stresseurs modernes, donc la vie moderne ne peut pas se concevoir sans stress. Hier, c'était les plus forts qui survivaient. Aujourd'hui ou demain, c'est peut-être les plus sages. Parce que la survie, elle est liée à l'adaptation au stress. Si on peut gérer le stress aujourd'hui, on va vivre beaucoup mieux. Alors que hier, c'était les plus forts qui pouvaient survivre. Donc, parce que c'était une rivalité physique. Aujourd'hui, c'est une rivalité avec le stress. Stress en moderne, trop nombreux, trop intense, trop exigeant. Hyperstimulation psychique constante, les médias, les mobiles, donc enfin tout le monde est constamment stimulé par toutes sortes d'ondes. Information mondiale aussi, et tout passe sur les antennes, à la télé, on sait tout à la minute près, donc, et puis risque boursier, attention, on va avoir un crack, enfin, et tout est fait pour stimuler et pour stresser tout le monde, et ce n'est pas anodin. La publicité aussi, les médias sollicitent les réactions pulsionnelles, plus que la pensée. Et donc, sur la prochaine diapositive, vous avez les trois cerveaux. Donc, vous avez entendu parler du cerveau reptilien ou archaïque, donc, qui est le premier. C'est un cerveau instinctif, réflexe. Donc, c'est la survie, c'est le manger, c'est le contrôle des fonctions. Donc de l'organisme, et puis un élément important, approche ou évitement. Approche, c'est dans un but sexuel, évitement, ou alors dans un but, si c'est une autre espèce, dans un but de l'attraper, de le manger. Donc ça, c'est les prédateurs par rapport donc aux victimes. Ça, c'est le « j'approche » pour le choper, ou alors je pars pour ne pas être bouffé. Donc ça, c'est instinctif, vous ne pouvez pas réfléchir. Et vous avez intérêt à réagir à certains moments très vite, sinon vous êtes mangé, et vous n'êtes mangé qu'une fois. Hein. Donc, le premier cerveau, donc ça c'est le réflexe, et la publicité, c'est pour ça qu'il y a toujours une belle femme avec les voitures, avec ce qu'on veut manger. Donc, avec d'autres choses qu'on veut vendre. Donc, pas forcément manger, je ne sais pas pourquoi, bon, bref. Donc, la publicité, associe très souvent la sexualité, enfin l'attrait sexuel, avec ce qu'ils veulent faire passer. C'est le cerveau archaïque qui est visé. Donc, où il faut absolument que vous ayez ça, sinon vous n'êtes plus. Il faut avoir. C'est vraiment archaïque, comme c'est les réflexes. Et la publicité est très forte pour vous mener dans cette barque. Hein. Le deuxième cerveau, c'est le cerveau émotionnel. Donc, c'est l'apprentissage par essai. Donc, là, j'ai eu une mauvaise expérience, donc la prochaine fois, je vais me méfier. Donc, chat échaudé craint l'eau. Donc, c'est notre expérience qui fait qu'on aime, on n'aime pas. Donc, ça, cet endroit est dangereux. Donc, c'est la peur, c'est la colère. Donc, ce sont les émotions qui gèrent, et les émotions, on les gère pas non plus. Donc, c'est très, très rapide. Et c'est que le troisième cerveau, c'est celui qu'on devrait faire travailler le plus, c'est le cerveau rationnel, c'est de réfléchir, de voir le pour, le contre, et c'est celui-là qui est le plus important, qui nous permet aussi de prévoir, d'anticiper, qui permet de gérer, et c'est celui-là qu'il faut faire travailler le plus. Mais bon, il ne faut pas négliger, on a tous une part d'archaïque et on a tous une part d'émotionnel. Ça nous colle à la peau, enfin, on a notre passé, ces émotions sont là et il faut savoir les... On ne peut pas les enlever, il faut pouvoir les travailler. Alors, on distingue des stresseurs matériels, la concentration urbaine de la population, il y a plein de monde, ça stresse... tout le monde, les transports, les aléas, les problèmes de logement, de bruit, problèmes financiers, problèmes de voisinage, etc. Bon, d'intégration aussi, oui. Alors l'autoroute, d'accord, c'est cher, mais grâce aux bouchons, on en profite plus longtemps. Alors, stresseur relationnel. Donc, il y a naturellement les exigences professionnelles qui sont de plus en plus fortes, avec un travail lointain, donc besoin de mobilité, les gens qui doivent déménager, etc. C'est chaque fois un stress, le déménagement, c'est pas évident. L'isolement familial et amical, donc si quelqu'un travaille ou doit travailler à 1000 km, ou les conflits familiaux, naturellement, les conflits de voisinage, donc on est en très bon terme avec les gens en Australie, mais avec son voisin de palier, c'est peut-être pas si évident que ça. Donc, indifférence des gens, les gens qui parlent pas, puis il y a plein de non-dits, de mauvaises interprétations, puis il y a des gens qui passent toujours devant, et puis, donc il y a plein de stresseurs toute la journée. Le travail est une nécessité vitale pour la survie, naturellement, mais aussi pour notre équilibre psychologique. On a besoin de se sentir utile, on a besoin de savoir qu'on peut apporter quelque chose, et puis ça nous met aussi face à la réalité. La vie, ce n'est pas simplement un rêve, c'est une réalité, il faut qu'on mette la main à la pâte. C'est une source de satisfaction matérielle par le salaire, psychique également, on peut créer des choses, et puis sociale, donc ça nous permet d'appartenir, une appartenance, une équipe, et puis d'avoir aussi un impact social, on peut faire quelque chose. Le travail est aussi source de souffrance, donc par les efforts, par la fatigue, par les conflits que ça génère. Et puis il y a des stresseurs professionnels, donc la surcharge naturellement de travail, un travail qui est répétitif, on fait toujours la même chose, il faut le faire très vite, c'est vraiment pas stimulant intellectuellement, parfois il sert à rien. Les conflits avec les collègues, donc les rivalités, chacun veut être chef, les petits chefs, donc, et puis pression hiérarchique, voire harcèlement, je vais en toucher un mot du harcèlement, l'incertitude de l'emploi, ça aussi, est-ce que je vais être gardé, est-ce que je vais être jeté, donc la distance aussi entre les décideurs et le terrain, donc il y a des gens qui réfléchissent dans les bureaux, ils mettent jamais les pieds dans l'atelier. Et donc, les messages ambigus, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils disent. L'absence de renforcement, donc on n'est pas encouragé. Et puis, les réunions de pseudo-concertation, les gens, oui, ils essayent de trouver de bonnes solutions, et puis ils se rendent compte, ben, tout était déjà ficelé. Donc, ils ont beau donner tout ça, mais ils avaient déjà tout décidé. Alors, là, j'ai craqué. C'est dur de ne rien faire. C'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mis dans un placard et c'est dur de ne pas être, de ne pas avoir d'importance. Le harcèlement moral, ce sont des agissements répétés conduisant à une dégradation des conditions de travail. Donc ce sont des paroles, des remarques, des réflexions qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique et mentale, parce que ça le stresse, et ou de compromettre son avenir professionnel. Donc ça, c'est moral, mais aussi le harcèlement sexuel, c'est des agissements de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou pour quelqu'un d'autre. Donc, ce domaine du harcèlement, il est de plus en plus fréquent. Parce qu'on ne peut pas licencier n'importe comment. Donc, beaucoup de gens essayent de mettre une pression pour que les gens partent d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas que la pression. C'est aussi un mode de fonctionnement de certaines personnes qui ont besoin de harceler, qui ont besoin d'embêter les autres. Alors, le burn-out, c'est une situation de discordance. Discordance, donc, entre les ressources existantes qui sont effectivement insuffisantes et très souvent demandent trop. Et ça, il faut l'identifier également. Ou alors parce qu'il y a une mauvaise gestion ou une mauvaise utilisation des ressources. L'autre jour, quand je suis allé à l'hôpital, donc il y a le parking de la voiture et puis il faut mettre sa carte magnétique. Et puis, normalement, je la mets dans ma pochette. Et puis, j'avais une chemise sans pochette, donc elle ne pouvait pas être là-dedans. Et puis, j'avais l'impression, ok, je l'ai oublié, je l'ai laissé dans l'ancienne chemise. Je suis arrivé donc, à la barrière, je n'avais pas de carte magnétique. Donc, je suis sorti, et puis j'ai demandé à la personne derrière ce qu'elle n'a pas, enfin, je l'ai oublié. J'étais persuadé, donc, de ne pas l'avoir. Et donc, elle a mis la sienne, mais je l'avais dans la poche de ma veste. Donc, si vous êtes persuadé de quelque chose, si vous êtes persuadé de ne pas avoir les compétences, si vous êtes persuadé de ne pas avoir les ressources, vous allez agir comme ne les ayant pas, même si vous les avez. C'est pour ça que je dis mauvaise utilisation des ressources. On a beaucoup d'images négatives de soi et donc on ne peut pas donner le plein potentiel qu'on a en réalité. Mais qu'on ne peut pas, parce qu'on a l'impression qu'on ne l'a pas. Donc mauvaise gestion, effectivement parfois c'est mal utilisé, mais aussi on a parfois une mauvaise image de nous-mêmes. Par rapport aux contraintes externes qui sont fortes, recherche d'un idéal personnel, donc il y a des gens qui ont besoin d'être parfaits, il faut que l'idéal soit toujours, la perfection soit toujours atteinte. Ça aussi, ça met énormément de pression. Et puis, les fortes exigences de résultats. Alors, il y a une discordance entre les ressources et les contraintes. Donc, le personnel humain et puis les contraintes qu'on met sur le travail. Le personnel humain, c'est un personnel, ce sont des personnes. Vous avez vu la différence qu'il y a eu, enfin le changement qu'il y a eu. On n'est plus on est du personnel, on est des ressources humaines. C'est venu de manière tout à fait insidieuse, mais c'est lourd de sens. Donc le personnel, il a une nécessité de travailler. Alors que le monde du travail de l'entreprise a de plus en plus une logique de profit. Et s'il n'y a pas de chômage, on ne peut pas mettre de pression sur les autres. Donc le chômage est indispensable pour cette logique de profit. Donc les personnes sont empathiques, ils sont face à des êtres humains, donc ils souffrent. Et donc, il y a une empathie. On va essayer de sauver, ça c'est le cas classique du soignant. On veut sauver la personne qui souffre. C'est tout à fait normal. C'est agressif, la maladie, la mort, c'est très agressif pour l'être humain. Alors que pour l'hôpital, par exemple, c'est une logique comptable. Combien de personnes on a hospitalisées. Ce sont des comptables. Ce sont deux mondes tout à fait différents. Donc, pour le personnel humain, il est motivé, il a besoin d'un sens à sa vie, de valeur, il a un idéal. Donc là, je reviens, c'est une logique de profit, même de spéculation, de plus en plus, où le travail n'a plus du tout sa valeur, où si je peux spéculer, ben, je peux gagner beaucoup plus facilement de l'argent, ou une logique de rentabilité. Quand le personnel est insuffisant, ben, il y a une tendance au surmenage, oui. Et puis dans l'entreprise, ben, si ça marche avec peu de personnes, pourquoi pas. Donc on va essayer de pousser un petit peu la rentabilité, donc logique de rentabilité. Initiative, la personne a besoin de prendre des initiatives. Ça c'est un élément très important, de se sentir efficace. Si vous avez l'impression d'être inefficace, c'est pas bien. Donc alors que les directives sont de plus en plus centrales, vous faites ceci ou cela, on s'en fout de ce que vous pensez, suivez les directives. Besoin de reconnaissance, donc par le salaire, par les encouragements. Et puis, il y a de plus en plus de taxes, de charges sociales, d'ignorance, de harcèlement. Donc, ça va complètement à l'opposé de ce que l'être humain aurait besoin. Besoin d'appartenance à une équipe, besoin d'entraide, sécurité. Et puis, la logique économique, elle veut qu'on puisse remplacer tout le monde, que s'il y a une absence ici, ben, quelqu'un d'autre le remplace. Donc, il faut de la flexibilité, il faut des mutations. Les licenciements, ça ne pose aucun problème. Donc, vous voyez qu'on est dans deux structures totalement différentes entre les besoins de l'être humain et puis les buts économiques. Donc, le burn-out était une situation, mais c'est aussi un processus. Et pour répondre à notre idéal de travail et à la surcharge, ben, qu'est-ce qu'on fait? On redouble d'ardeur. Surtout si vous avez quelqu'un en face qui souffre, donc vous redoublez d'ardeur et puis vous épuisez, parce qu'on a des capacités, mais elles ne sont pas illimitées. Donc, épuisement physique, émotionnel, et puis on est frustré, on n'arrive pas à faire le boulot comme on aimerait le faire, on est en échec, on a l'impression de perdre ses valeurs, on n'a pas de reconnaissance, on n'a pas de soutien, donc on est frustré de partout. Plus j'essaye de faire des efforts et moins j'ai de résultats, donc ça ne peut pas continuer. Et de ce fait, et c'est une tendance tout à fait normale, de réviser ses objectifs. Et puis on prend du recul, on se désinvestit par rapport au travail parce que j'en souffre trop, ça me fait trop mal. Et puis on se détache aussi des personnes. Mais bon, si vous détachez, si vous produisez moins, le retour de la manivelle, il est vite là. Donc il n'y a plus de gratification. Les autres voient que vos résultats. Le reste, ils s'en foutent. Donc il n'y a plus de vous retirer, absence de gratification, voire opposition. Donc on vous fait des remontrances. Tiens, dans le temps, tu avais telle ou telle activité, aujourd'hui, tu as chuté. Donc comment ça se fait que ton chiffre d'affaires n'augmente pas? Et cette critique, elle est mal vécue. Et surtout si on ne peut pas forcément prendre le recul, que ça vient des autres. Et puis, ben, on est démotivé et désespéré. Baisse de l'estime de soi, sentiment d'incompétence et d'inutilité. Donc ça, c'est au niveau... charge trop importante, donc on s'épuise et puis on prend de la distance, donc ben, naturellement le retour il va diminuer et puis on a l'impression qu'on est vraiment moins que rien et qu'on est au bout du rouleau. Donc ça c'est un livre, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Ça concerne la souffrance au travail, mais c'est vrai que tout le monde ne meurt pas. Tout le monde n'arrive pas jusqu'à l'épuisement total, mais tous étaient frappés. Ça, c'est un élément important. Alors, pour Maslach, donc, une des... Enfin, de, qui a, dé, qui a défini le burn-out, donc surtout le burn-out, l'épuisement professionnel. Ben, pour elle, c'est relativement simple, c'est le monde du travail qui est en cause et il faut réformer le monde du travail. Donc il y a 6 points, il y a le surmenage, je pense que l'orateur de cet après-midi en parlera également, mais bon, peu importe. Le surmenage, le manque de contrôle sur ce que je fais, le manque de récompense et de reconnaissance, l'éclatement de la communauté, donc il n'y a plus de travail d'équipe, l'absence d'équité, donc il y en a qui passent beaucoup plus facilement, et puis des valeurs conflictuelles, on n'a pas les mêmes valeurs. Entre les valeurs humaines et les valeurs économiques, il y a un fossé. Donc, pour elle, c'est simplement le monde du travail qui est en cause et il faut modifier ses structures. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Mais il n'y a pas que ça. Alors, pour d'autres, effectivement, pour elle également, il faut adapter les ressources. Donc, là aussi, c'est important d'acquérir de nouvelles compétences. Par exemple, par rapport à l'ordinateur, à l'informatique, si vous n'avez pas les compétences, vous allez stresser là-dessus. En acquérant de nouvelles compétences, il y a des choses qui vont tout à fait facilement. Donc c'est important de... Mais ce n'est pas qu'une... Le burn-out, ce n'est pas qu'une question d'acquisition de compétences. Hein. Et puis, il faut apprendre à gérer par la résolution du problème. Donc, d'essayer intellectuellement, le cerveau rationnel, de trouver des solutions. Et non pas une gestion émotionnelle. Donc là, je veux me mettre en colère. Et puis, ça marche parfois, la gestion par la colère. Vous avez des gens qui... Vous n'osez pas poser quoi que ce soit comme question. Vous n'osez pas vous opposer. Tellement ils sont en colère. Et puis, donc... La gestion émotionnelle peut apporter certains résultats, mais elle est très coûteuse en énergie et en stress. Donc, parfois, il y a un problème d'organisation du travail, c'est vrai, mais ce n'est pas que de problème d'organisation du travail. Un soutien émotionnel, ça peut naturellement aider, des encouragements, une présence de hiérarchique, ça peut aider, des aides réelles, un coup de main. Donc ça c'est souvent, je suis en conflit avec les cadres constamment parce qu'il n'y a plus d'aide réelle. Dans le temps, les cadres, ils mettaient la main donc à la pâte ou au lit, enfin à refaire les lits. Aujourd'hui, le cadre, il est dans son bureau, il passe les directives et puis c'est pas bien. Donc des conseils judicieux, effectivement. L'embauche de personnel, ben, il y a un coût, des charges sociales, ben, sinon, s'il n'y a pas tout ça, ben, on va s'épuiser. On va. Alors, le burn-out, donc, il a été classé dans les troubles de l'adaptation, donc il n'y a pas d'autre rubrique pour le classer, donc, bon, ça, c'est, vous le trouverez, c'est des symptômes émotionnels et comportementaux dans les 3 mois suivant des facteurs de stress. Donc il y a une souffrance disproportionnée par rapport aux facteurs de stress. La personne souffre beaucoup. Ou alors il y a une altération significative du fonctionnement social ou scolaire. Et puis il n'y a pas de pathologie de l'accent, c'est-à-dire il n'y a pas de trouble anxieux ou de l'humeur ou de troubles de la personnalité. Il n'y a pas de deuil non plus parce qu'on peut avoir ces symptômes dans les suites d'un deuil. Donc c'est des symptômes tout à fait normaux. Et puis, ça disparaît dans les 6 mois après avoir réglé le problème. Alors, bon, ça peut être aigu, ça peut être chronique, avec humeur dépressive, avec perturbation des émotions et des conduites, bon, peu importe. Donc, il n'y a pas de classification, et c'est dommage. Donc, pour le burn-out et pour toute cette pathologie, il n'y a pas on ne peut pas les classer. Il n'y a que ce cadre qui peut les recevoir, mais qui ne fait absolument pas le tour, parce qu'il y a beaucoup plus de burn-out que simplement des troubles d'adaptation. Alors, j'ai lu un livre qui m'a surpris, dont le titre c'est « L'intelligence du stress », où il dit que le stress n'est dû qu'à la personne. Donc, et que c'est la manière de gérer la situation qui fait que la personne stresse. Alors, ils reconnaissent donc Fradin et Lefrançois. Il y a deux situations. Situation simple et connue. Donc, pas de problème, on sait comment gérer. On affronte la situation, donc c'est automatique. À la limite, on peut même le faire en dormant, presque. Donc, c'est tellement facile pour nous qu'il n'y a absolument pas de stress. Mais ce sont surtout dans les situations qui sont nouvelles ou qui sont complexes. C'est là qu'il y a un risque. Alors, on peut et qu'on ne maîtrise pas. Donc, vous voyez, on est incapable de maîtriser d'emblée la situation. Alors, on peut refuser la situation de ne pas maîtriser. Donc, non, moi, je vais y arriver. Et on affronte, on y va. Et on essaye par tous les moyens qu'on connaît. Et puis, ça ne marche pas. On n'arrive pas à la solution. Et on stresse. Donc, on essaye par tous les moyens connus et on échoue et on stresse. Les autres, ben, ils sont pas d'accord de ne pas maîtriser, mais ils se tiennent loin, ils évitent. Donc, tant qu'ils évitent, bon, ils sont calmes. Mais dès qu'ils pensent à la situation, ils stressent. Donc, c'est pas une bonne solution. Donc, le stress, il survient naturellement s'ils sont confrontés à la situation qu'ils essayent d'éviter. Et plus on évite et plus on stresse, enfin, à l'idée de la confrontation. Donc, c'est pas bon. Alors, la bonne solution, c'est d'accepter qu'on ne maîtrise pas et d'affronter tout de même la solution. Mais en essayant de réfléchir, en essayant de trouver une solution, donc intellectuellement, non pas par nos automatismes. C'est une situation nouvelle, donc je mets toutes mes possibilités, mes cartes sur la table et j'essaye de réduire. Et je ne me donne pas un laps de temps, il faut que je le trouve tout de suite, donc je réfléchis intellectuellement pour régler la situation. Alors, il y a des styles de vie également qui sont stressants. Le stress peut être un style de vie, donc on peut se sentir en vie, on peut se sentir efficace, donc important. Donc, s'il n'y a pas de stress, ben, la vie ne vaut pas grand-chose. Mais quel prix il faut payer pour cette... Puis, il y a des comportements de type A qui sont constamment stressés. Ils sont constamment sous tension, il y a constamment de l'urgence. Ils luttent contre le temps et les autres pour tout contrôler. Donc, l'agressivité aussi peut être un tel style de comportement. Il faut stresser un éventuel stresseur. Donc, il faut stresser l'autre avant qu'il me stresse. Donc, c'est de la compétition constante. Donc, il faut être efficace, il faut le vaincre, il faut être gagnant. Donc, l'autre, peu importe, on le méprise. Donc, ce style de vie peut être gagnant. Enfin, on peut gagner, mais c'est un style très, très stressant. Alors après, il y a des facteurs personnels de stress. L'émotivité, donc, augmente naturellement la sensibilité au stress. Si vous avez peur, si vous êtes en colère, si vous sentez coupable, donc, toutes ces émotions amplifient les réactions au stress. Les abus d'alcool, de tabac, de drogue, de médicaments aussi. Et puis, il y a aussi le vieillissement. Donc, on perd tout de même avec l'âge des facultés physiques et intellectuelles, de la mémoire. La maladie aussi, et puis le handicap. Donc, naturellement, et beaucoup de gens qui ont des handicaps essayent de surcompenser. Donc, et ils se mettent sous pression, donc pour justement montrer qu'ils sont capables, malgré leur handicap, à obtenir tout ce que les autres obtiennent. Donc, il y a des facteurs personnels de stress, ça c'est indéniable. Et puis on se défend. On a des mécanismes de défense, heureusement. Ce sont des processus psychologiques automatiques qui protègent de l'anxiété ou de la perception des dangers ou des facteurs de stress internes ou externes. Donc, j'en ai mis quelques-uns, déni. Donc, non, c'est pas vrai. L'invulnérabilité, pas de problème, il peut rien m'arriver. Donc, omnipotence, refoulement, projection, non, c'est pas moi, c'est lui qui a fait. L'introjection, c'est non, c'est pas lui qui a trouvé, c'est moi qui ai trouvé. Donc, l'agressivité passive, donc ça, c'est une réaction, je n'ose pas m'opposer directement, mais je ne fais pas ce qu'il me dit, je ne fais que la moitié, donc c'est une forme détournée d'agressivité. Alors ces mécanismes de défense sont inconscients et ils sont mis en place pendant l'enfance pour se protéger contre les angoisses d'abandon et les émotions douloureuses aussi de la maltraitance. Donc quand l'enfant n'obtient pas ce dont il a besoin, il peut recourir naturellement de manière tout à fait inconsciente à ces mécanismes de défense, mais le drame, c'est que très souvent, il continue à les utiliser à l'âge adulte. Donc ils sont utiles pendant l'enfance, mais souvent inadaptés à l'âge adulte, ou alors ils peuvent être adaptés quand on est vraiment conscient de l'adversité. Donc il faut parfois, face à un adversaire, il faut parfois effectivement nier, ou il faut parfois s'opposer, donc de manière franche, ne pas le laisser prendre emprise sur vous. Donc ces mécanismes de défense peuvent devenir des facteurs de stress. En effet, le refoulement ou l'oubli, il faut tout de même rester vigilant dans cette situation parce qu'il y a le risque de retour du refoulé par des lapsus, par des rêves, donc il y a des choses qui nous reviennent. Et donc il faut essayer constamment d'évacuer ça. Le déni, le mensonge, donc vous... Oui, il faut être... Il y a des gens qui sont très habiles, donc ils disent certaines parties de vérité à certaines personnes, et puis d'autres parties de vérité à d'autres personnes. Mais il faut rester très vigilant pour savoir ce que vous avez dit à l'une ou à l'autre. Comme ça, vous pouvez manipuler plein de gens, mais si vous n'êtes pas vigilant, donc vous allez vous faire coincer. Donc il y a une lutte constante aussi pour imposer sa vérité constamment. Il faut montrer que non, tu n'as pas raison. Et puis surtout, il faut lutter pour ne pas être pris en flagrant délit. La violence, la colère, donc le fait d'être irritable et puis d'être boudé, d'être colérique, agressif, donc ça ferme la bouche à plein de gens. Il y a plein de gens qui n'osent pas poser de questions, aborder des personnes qui sont violentes, mais ça en coûte, le fait d'avoir ce comportement. Le mépris, il y a des gens qui méprisent, donc c'est pas de problème. Ça les isole, mais bon, peu importe, ils arrivent à mieux se protéger. L'omnipotence, donc, ça c'est un risque pour les médecins. Donc, c'est effectivement derrière eux, par rapport à la maladie, il n'y a plus personne. Donc, et puis, il n'y a que eux qui peuvent régler cette situation. Donc, parfois, on se croit Dieu, on se croit investi d'une mission qui nous dépasse peut-être également. Et cette sensation de tout devoir régler est aussi un facteur de stress. Donc... Et on risque là aussi, dans cette omnipotence, dans cette invulnérabilité, d'être mis en question constamment par les autres, et puis surtout par la vie ou la mort. Alors les candidats au burn-out, ce sont naturellement les plus dévoués. Sens du devoir, il faut absolument que je fasse ça. C'est les enthousiastes, les idéalistes, la vie n'a pas de prix, il faut y aller, donc on va y arriver. Donc les perfectionnistes, il faut tout contrôler, les ambitieux, il y a toujours besoin de faire mieux. Donc... Et puis les personnes aussi qui sont dépendantes du regard des autres, je ne peux pas le décevoir, sinon c'est la fin. Donc, et puis le syndrome du sauveur, l'estime de soi dépend de la reconnaissance des autres. Et ça c'est un élément très, très important, le regard des autres, qu'est-ce qu'il va en penser. Et c'est ce qui de facteur de stress. Donc on est tout feu, tout flamme au début, on veut tout changer. Et puis on s'éteint. Doucement. Alors, stress, vous avez dit stress, donc pas de problème, docteur, j'ai une santé de fer. Donc lui, c'est l'ouvrier du mois. Hein. Donc on peut l'engager, il n'aura pas de problème articulaire. Donc vous pouvez le faire travailler. Alors, la troisième partie, ça va? Vous n'êtes pas trop stressé? J'ai combien de temps encore? Pardon ? 5 minutes. 5 minutes. Ouh ! Ah ouais, voilà. Alors, Alors je passe rapidement. Système d'attachement. Un enfant naît avec des besoins, des potentialités. Il exprime ses besoins par un mal-être, des pleurs. Si ses besoins sont identifiés, assouvis, il est satisfait et il arrive à discerner progressivement ses désirs et aussi il va acquérir un attachement sécur. Si ses besoins ne sont pas assouvis, il ne va pas être bien, il va mettre en place des mécanismes de défense, il va imiter, il va avoir un attachement anxieux. C'est ce qu'on va voir ici. Bon, on va peut-être passer ça. Donc le système d'attachement permet d'avoir des enfants sécures, enfants et puis après adultes, qui ont une bonne image d'eux-mêmes, qui ont une bonne image des autres. Ils ont une estime de soi, ils sont flexibles, ils ont l'impression, ils peuvent apporter quelque chose, une efficacité personnelle. Le travail est valorisé comme les relations. Les préoccupés, c'est ceux qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes et une bonne image des autres. Ils se sentent incapables et ils sont dépendants constamment du regard des autres. Ils travaillent pour gagner le respect des autres, pour avoir leur aval. Les évitants, eux, ils n'ont rien reçu, donc ils se sont débrouillés par eux-mêmes, ils sont méfiants, ils travaillent pour montrer qu'ils sont capables. Donc pour prier, les désorganisés, eux, ils sont très changeants, grande anxiété, détresse. Ils désirent des relations intenses, mais ils sont toujours déçus. Donc, les abus et les négligences de l'enfance. Les sujets préoccupés surinvestissent le travail pour prouver leur valeur et se faire accepter. Les abandonniques, ils font tout pour ne pas être rejetés. Donc, vous pouvez les utiliser, vous pouvez y aller. Les perfectionnistes, ils veulent tout contrôler. Les sujets évitants et narcissiques sont omnipotents, donc ils peuvent tout, il n'y a rien qui leur résiste. Les assujettis se soumettent par crainte que ça va être pire encore s'ils ne le font pas, et puis les désorganisés, donc ils sont instables, ils sont impulsifs. Là j'aimerais simplement parler des survivants, notamment des survivants d'avortement, et donc... Un quart des grossesses sont avortées, donc il y a plein de survivants. Ces survivants, que ce soit des survivants de guerre ou d'autres violences, sont anxieux, coupables et en colère. Ils ne peuvent pas entrer dans leur talent. L'imitation, est un mécanisme, un fondement de l'apprentissage. Donc c'est très important d'imiter les bonnes choses. Par contre, quand on ne sait pas ce qu'on doit faire, on imite très souvent les autres, on les convoite, on veut la même chose qu'eux. Donc ça, c'est le mimésis d'appropriation, c'est René Girard qui a mis ça au point, enfin l'a expliqué. Et puis après, quand il y a deux personnes qui veulent la même chose, donc elles se mettent en rivalité, donc c'est une rivalité mimétique. Et ils sont contents de pouvoir se frotter l'un à l'autre. Ils veulent absolument avoir raison. Peu importe la raison pour laquelle ils se bagarrent, mais l'essentiel, c'est d'avoir raison. C'est de vaincre l'autre. Ça, c'est la rivalité mimétique et le désir d'anéantissement. Donc, on considère l'autre comme un obstacle. On est prisonnier. On se sent esclave. C'est la quatrième catégorie. On se sent esclave. J'ai une très mauvaise image de moi. J'ai une très mauvaise image des autres parce qu'ils vont me manger tôt ou tard. Et donc, il faut absolument que je détruise cet obstacle. Donc, on peut arriver jusqu'au meurtre. Alors, imiter et retenir ce qui est bien, l'apprentissage sain. Idolâtrie, envie convoiter, rechercher le regard approbateur de l'autre. Mais cela nous rend dépendants de lui. La rivalité, chacun est sa propre référence. Et puis, chacun est son propre Dieu. Et puis mimétisme métaphysique, on est victime du système, donc soit on se plaint, soit on s'oppose aux autres, ou on peut avoir des gestes désespérés. Il y a une perte de repères, perte des valeurs spirituelles, donc de la société, perte du caractère sacré de la vie et des valeurs humaines. L'homme est considéré comme un objet, l'individu, donc il est conçu normalement que pour le bien et pour l'amour. Et on ne peut pas considérer un individu comme un objet, ça va pas. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et on vit cette période. perte de la stabilité familiale, perte des valeurs fondamentales, donc qui conduit l'homme à une prolifération d'opinions. Là, je vais passer simplement les ismes, donc il y a plein d'individualisme, hédonisme, etc., intégrisme. Tous ces ismes et schismes sont des tentatives d'interprétation et de contrôle de la réalité et des sources de conflits d'influence et d'intérêts. Donc, perte de repères, l'hégémonie donc financière, les spéculations boursières, des minorités qui utilisent les médias pour passer leurs revendications, donc la gestion politique qui se fait en fonction des sondages. Donc, cette perte de repères conduit à des injonctions paradoxales. Qu'est-ce que c'est qu'une injonction paradoxale? On vous dit une chose et on vous dit le contraire en même temps. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, on a besoin de gagner sa vie, mais on risque d'être exploité. C'est un esclavage moderne. Le personnel est considéré comme ressource, mais il est aussi déshumanisé en tant que valeur marchande. Donc, valeur, l'homme, elle a une valeur intrinsèque ou extrinsèque. Et bon, là, je peux passer. Donc, nous avons tout intérêt à vous garder. Vous êtes la seule partie compressible de notre budget. Donc, ça, je peux passer. Pourquoi je considère que c'est une faillite spirituelle? Parce que un attachement insécure des enfants donne des adultes stressables. Si vous n'avez pas cette confiance en vous-même, les enfants ne peuvent s'attacher de manière sécure à des adultes stressés, ça non plus. Donc la perte des repères spirituels de la valeur de la vie et de l'être humain conduit à des valeurs relatives, donc telles que les IVG, les ressources humaines, et à des injonctions paradoxales. En dehors des adaptations des conditions de travail et des adaptations de l'être humain au travail, qui se lèvera pour redonner à la vie, au travail et à l'être humain, sa pleine valeur spirituelle. Donc en conclusion, le burn-out est une pathologie liée à la persistance de stresseurs chroniques. C'est un état dont les symptômes constituent un continuum qui va jusqu'à l'épuisement total. C'est aussi un processus qui va du surinvestissement à l'épuisement physique et mental, au désinvestissement jusqu'au désespoir. Le burn-out est favorisé par la multitude des stresseurs modernes, par la discordance entre la perception des ressources disponibles et la perception des contraintes externes et internes, les exigences de rentabilité, certes une mauvaise adaptation aussi au travail, et les fragilités personnelles. Avec les pertes des repères de la valeur de la vie et de l'être humain qui conduisent donc à un attachement insécure et on méconnaît, ça c'est important dans ce problème d'attachement, on méconnaît ses propres talents. Donc on ne se construit pas sur ses propres talents et si on ne peut pas se construire sur ses propres talents, on va forcément voir ce que fait l'autre. Et donc on va se laisser conduire par l'autre, on va se laisser aussi affronter par l'autre, on va pouvoir moins bien se défendre parce qu'on ne se connaît pas. Donc, des mimétismes d'appropriation, de rivalité et métaphysique, le relativisme général, donc qui tout est vrai, tout est acceptable, et ceci donne des injonctions paradoxales. Et vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, donc en même temps. Il y a deux valeurs. Il y a une valeur humaine qui dérive de Dieu. Et puis, il y a une valeur donc de l'argent économique, enfin, pas économique, mais vraiment une valeur de l'argent qui dérive de Mammon. Et donc, ces deux puissances sont en lutte. Alors, c'est sûr que le système de... On peut améliorer le système de travail, mais il y a tout de même cette exigence de plus en plus économique qui oppresse. L'être humain, il peut réagir d'une certaine manière, mais il a besoin de se connaître, de connaître ses talents, il a besoin de connaître sa force, ses limites, et de pouvoir, enfin, pour pouvoir s'opposer à cette demande de plus en plus forte de économique et du monde du travail. Donc, c'est un peu rapide, excusez-moi. Ah oui. Ça c'est la bibliographie, donc l'intelligence du stress, Jacques Pradin, des choses cachées depuis la fondation du monde, le burn-out, le syndrome d'épuisement professionnel de Maslach, savoir gérer son stress de Charles Quingy, Et puis le site de UDSRDP, unité de ressources pour la restauration et le développement de la personne. Donc on anime avec mon épouse des groupes de, justement pour aider des personnes qui ont eu de la maltraitance de l'enfance ou des séquelles d'avortement, donc à retrouver une meilleure image d'eux-mêmes, de découvrir leurs talents et de pouvoir lâcher un petit peu les valises du passé. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site. Il y aura une formation au mois de novembre près de Lyon, donc u2rdp.org. Vous trouverez les éléments.